L'amour du monde de Charles Ferdinand Ramuse, édition Plomb, 1925. L'édition originale de cet ouvrage apparut dans le Roseau d'or, collection d'œuvres et chroniques publiées à la librairie Plomb. Son tirage a été de 6000 exemplaires, dont 200 exemplaires sur papier pur fil des papeteries La Fuma à Voiron, numérotés de 1 à 200. 5500 exemplaires sur papier d'alpha, numérotés de 1 à 5500, et 300 exemplaires hors commerce marqués EP. L'amour du monde. 1. C'est vers ce temps-là qu'il a commencé à se hasarder, jusque dans les rues de la ville, ce qu'il n'aurait pas osé faire auparavant. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas permises, et à présent, elles l'étaient. Il y avait des choses qui avaient semblé impossibles et qui ne semblaient plus impossibles. Vers ce temps, c'est-à-dire vers le milieu de mai, il a commencé à s'aventurer jusqu'en plein centre de la ville. Et, comme il faisait chaud déjà, il portait des vêtements en toile blanche. Il tenait à la main une branche qu'il avait cassée en passant dans une haie, ayant encore ses feuilles, ou même toutes fleuries, quand c'était une branche d'aubépine ou de fusain. On n'a guère fait attention à lui, les premiers jours, sauf que ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de le rencontrer se retournaient sur son passage, demandant « Qu'est-ce que c'est que ce particulier-là » Mais on leur disait « Comment, vous ne savez pas? C'est le pensionnaire du docteur Morin. »« Ah! Il croit qu'il est Jésus-Christ !» On riait. Et, lui, continuait sa route, sa branche de feuilles à la main, comme quand on portait autour de lui des palmes. C'était après qu'il avait dit à ses disciples « Allez me chercher ce poulain d'Anès !» Et ses disciples avaient été lui chercher le poulain. On est vers la fin de mai. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. L'homme s'avançait dans la rue. Une tête, de place en place, se penchait hors d'une de ses fenêtres. Il était grand, il était beau, il était large d'épaules. Il portait toute la barbe, il avait les cheveux longs. Il est arrivé pour finir à une petite place où il y a une fontaine à double tuyau de laiton, toujours couvert de sueur, tellement l'eau est froide, et à double bassin de granit. Là se tenaient quelques femmes, dans leurs modestes jupes de toile, dans leurs modestes corsages de toile, têtes nues, les manches troussées. Elles parlaient entre elles en attendant que leur seau fût plein. Il était venu jusque sur la place. Voyant les femmes, il s'était arrêté. Il s'arrête au sortir de la rue et à l'endroit même où elle débouchait sur la place de la fontaine. Il a regardé les femmes sans rien dire, et elles, tout d'abord, n'ont pas pris garde à lui. Elles étaient trois ou quatre, qui se tenaient sous un petit carré de ciel très bas, peint en bleu, faisant comme un plafond. Et la place, sous ce plafond, était comme une petite chambre pleine d'ombre, car le soleil n'était pas encore venu jusqu'ici, et il n'y venait que tard et occasionnellement. Pleine de silence aussi, où il y avait seulement la façon de chanter de l'eau, qui est de commencer par les notes d'en haut, pour finir par les plus basses. Il y avait quelques mots échangés, le cri métal contre métal des seaux qu'on tire sur les traverses. Les femmes tournaient toujours le dos à l'homme. Elles ne l'ont pas vu tout de suite, ni en même temps. C'est Madame Raymondin qui l'a aperçue la première. Il ne bougeait pas, elle n'a pas bougé. Et c'est seulement en voyant Madame Raymondin rester si longtemps immobile que les autres ont fini par se douter de quelque chose. Alors elles ont vu l'homme à leur tour. Elles se sont mises aussi à le regarder, qui les regardait donc, et qui a continué à les regarder, sans rien leur dire. Pour finir, elles ont baissé la tête. Elles ont baissé la tête, elles la relèvent. L'homme n'était plus là. Un petit moment se passe. Tout à coup, on a entendu Madame Raymondin dire quelque chose. Et les femmes, « Qu'est-ce que vous dites ?» n'ayant pas compris. C'est que Madame Raymondin avait parlé très bas, et comme pour elle-même. « Ah ! » a-t-elle dit alors. « C'est drôle comme il ressemble à l'autre. Et vous savez qu'on prétend justement qu'il va revenir ?» Regardant avec fixité la place que l'homme occupait, qu'il n'occupait plus. la place qui avait été occupée par lui, qui n'était plus occupée. Et il y a eu donc ce vide, et à présent il y avait ce vide, avec l'étroite rue s'ouvrant plus en arrière, puis le vide n'a plus été. Pendant que les autres femmes attendaient une explication, mais rien n'est venu. Et elles n'ont rien vu, et elles n'ont pas dû comprendre. Elles n'ont pas pu voir, ni savoir le changement qui se faisait là pour cette autre. C'est pourquoi elles ont pris leur seau par lance, et leur corps a ployé dans le milieu sur le côté opposé. Madame Raymondin, elle seule, n'avait toujours pas bougé. Et c'était aussi dans ce temps-là une étroite petite rue. Alors les maisons n'ont pas eu de peine à être seulement un peu plus basses, un peu plus blanches, la pente de leurs toits allant de plus en plus en arrière et vers en bas, les trous des fenêtres bouchés. Madame Raymondin regardait toujours le même point, et c'était la rue. Il y a eu cette petite rue, toute blanche d'un côté, toute bleue de l'autre côté. Et cet arbre était un palmier. Des enfants nus couraient sans bruit dans la poussière. Il avait une robe blanche. Il avait cette même barbe noire, les mêmes beaux yeux, les mêmes longs cheveux bouclés. Il y avait là un puits, non une fontaine. Il s'était assis sur la margelle de ce puits, et, avec une branche qu'il tenait à la main, il s'était mis à écrire des choses dans le sable. C'est alors qu'une femme est arrivée, levant ses bras nus au-dessus de sa tête, et des hommes la suivaient, une pierre dans chaque main. Il écrivait toujours avec le bout de sa baguette des choses qu'on ne savait pas dans le sable. 2. Le même soir, la fille de M. Panser, qui était sergent-major de gendarmerie et chef du poste de notre ville, a été fermée à clé la porte de l'appartement. Son père venait de sortir, comme il faisait chaque jour à pareille heure. Il n'a eu qu'à attendre qu'il se levât, après avoir lu son journal, tout en fumant un cigare dans la cuisine, sous la lampe électrique à abat-jour de porcelaine. C'était quand 8 heures sonnaient, et, comme les fenêtres de l'appartement donnaient sur la rue, qui mène à la place du port, elle-même située tout à côté de l'église, le grand décrochement qui avait lieu dans le clocher venait immédiatement à vous, faisant au premier choc se redresser la grosse tête ronde, aux cheveux coupés ras dans le col d'uniforme bleu bordé de perles blanches. M. Panser, comme toujours, avait été prendre sa casquette pendue au clou, puis, passant la main à 2 ou 3 reprises sur sa grosse moustache, « Eh bien, à tout à l'heure, Thérèse !» Il a fait ensuite demi-tour dans sa belle tunique à une seule rangée de boutons, avec un ceinturon orné d'un gros écusson de même métal. C'était du cuivre. Elle avait vite été tourner la clé dans la serrure. Après quoi, elle était venue dans sa chambre, sachant bien qu'elle serait seule jusqu'à 10 heures. Et pendant ce temps, l'autre était dans son île. Le naufrage l'a jetée, seule survivante, à la côte. Et, comme Ève, on la voit paraître, vêtue seulement d'une ceinture de feuilles de figuier. Une Ève sans Adam encore, sur les grands rochers dominant la mer où elle va, le soir, interroger le large et, dans le soleil qui se couche, est vue à contre-jour avec ses cheveux qui lui tombent jusque dans le bas du dos. Est-ce que les miens vont être assez fournis, assez fins, assez crêpés, assez blonds surtout ? Pensa Thérèse. Là-haut, l'autre se tient, qui lève les bras pour appeler sur les falaises, et dans le bas de la falaise, la mer vient. On voit entrer, l'une après l'autre, les vagues dans les anfractuosités du rocher, où elles prennent la forme d'une barque. Mais il n'y a point de barque sur la mer pour elle. Elle soupire, ses bras retombent. Thérèse a été accrocher la lampe électrique au mur, tout à côté de son miroir. Elle ôte le peigne de fausse écaille qu'elle porte enfoncé dans l'épaisseur de son chignon. Ses cheveux tombent devant et derrière ses épaules nues. Elle a fait un mouvement brusque avec la tête, ils lui viennent sur les yeux. Elle les écarte du bout des doigts. Elle ôte et écarte de devant ses yeux ce qui les empêche de voir. Mais ce n'est pas cette toute petite chambre qu'elle voit. Son papier à fleurettes bleues, son honnête lit de noyer, ses rideaux en fausse guipure crème, sa table ronde couverte d'un tapis à franges. Ce sont toujours les rochers au bord de la mer, où l'autre secoue encore sa grande chevelure parmi les couchers de soleil. Et là on aurait la liberté, parce que l'autre, à présent, s'élance du haut des rochers dans les vagues, les prenant dans ses bras comme des bêtes qu'elle fait ployer sous elle à mesure qu'elles viennent. Qui viennent encore, mais elle les a surmontées. Élevant alors joyeusement au-dessus de l'eau le haut de son corps en signe de victoire. Puis on la voit aller s'étendre au soleil pour se sécher. Et Thérèse voit, et puis se voit. Thérèse regarde là-bas, puis se regarde, faisant ainsi aller ses yeux de sa personne à cette autre personne. Et encore une fois, pour une comparaison, elle soupèse ses cheveux, évaluant leur masse, leur souplesse, leur qualité, pendant que l'autre se tient à présent assise dans une peau de tigre, à l'entrée d'une grotte, entourée d'animaux sauvages, des singes, des chacals, des lions, toujours avec ses beaux cheveux défaits dont elle joue savamment dans la lumière artificielle ou naturelle, de sorte qu'ils sont tour à tour comme un clair de lune et en lait, ou ils sont comme de l'or vierge. Ils sont comme de la vapeur d'eau, comme des blancs d'œufs battus en neige. Cependant, le jeune premier vient d'acheter un canot à moteur. Il est dans son canot à moteur avec des provisions et une chemise bouffante tenue serrée autour des reins par une large ceinture, sous un casque de liège. Justement, ce jour-là, elle nageait au large de l'île, et les bêtes sauvages l'attendaient sur le bord, assistant de loin à ses jeux. On l'a vu élever sa tête et sa poitrine au-dessus de l'eau qu'elle refoule sous ses coudes comme des coussins de plumes, puis soudainement se détourne, plonge, disparaît. On la voit fuir sur le rivage. Elle escalade les rochers. Il se met debout dans son canot à moteur. Il va prendre dans la cabine une longue vue. Elle fuit toujours parmi les lentisques, sous son voile glorieux. Ses mollets sont forts. Elle franchit une passerelle de liane, jetée par-dessus un affreux précipice. Et la voilà de nouveau à l'entrée de sa grotte, où elle se tient accroupie, le menton dans ses mains. Tandis qu'on devine plus bas l'orage de théâtre, qui soulève dans l'ombre ses seins déjà mûrs, qui valent pourtant chacun plusieurs centaines de milliers de francs. Thérèse fait ce mouvement. Elle fait tous ses mouvements. Elle va tout le temps avec ses yeux là-bas, puis revient, et elle compare. Ses cheveux, ses bras, son cou, sa gorge. Et tantôt elle a peur, tantôt elle se rassure. Elle a pour elle la jeunesse, ses 18 ans. Elle s'est acheté secrètement du rouge, du noir, de la poudre, les sourcils autour des yeux, la bouche. Tout le temps elle va là-bas et elle s'en va hors d'elle-même, de plus en plus, se refaisant à l'image de l'autre, comme quand un peintre peint un portrait, allant chercher à chaque arrangement nouveau la présence et le consentement du modèle, parce qu'il y a dans le mur devant elle comme une fenêtre. Et là-bas, c'est elle. Ici, c'est moi. Le jeune premier, pendant ce temps, a abordé. Tout s'arrange. Le jeune premier et la grande vedette partent ensemble. On les voit assis l'un à côté de l'autre, dans l'express qui les emmène à 100 km/h, avec de magnifiques valises de cuir. Et Thérèse recule, penche la tête, la relève. Elle en examine encore chaque partie, minutieusement. Elle a de la pâte à ongles, elle a du rose pour les ongles, elle a de la pierre ponce. Le boulanger disait déjà, quand elle n'avait pas encore 14 ans, « Qu'est-ce qui t'arrive, Thérèse ? » et s'arrêtait de peser son pain pour la regarder, avec un sourire, tenant la main sur la barre de cuivre le long de laquelle on déplace le poids, mais il oubliait de le déplacer. Et de la pierre ponce pour la peau, et du blanc, quand il y a ces magnifiques valises de cuir sur le filet, et lentement le filet penche, se redresse. Et le vieux monsieur Perlet, l'ancien juge de paix, qui marchait à tout petits pas sur le trottoir avec sa canne, s'arrêtait malgré le monde quand elle passait et se détournait. Alors pourquoi pas, pense Thérèse, pourquoi pas Marcel et moi? Pendant qu'elle ajoute du rouge, pendant qu'elle se passe de nouveau le crayon sur la bouche. Il y a quelque chose qu'on met sur les cils. Il y a aussi des gouttes qui font briller le blanc de l'œil. Elle fait monter ses lèvres contre ses dents, comme quand on veut mordre. Elle frotte ses bras du plat de la main, l'un et l'autre, pour les polir. 3. Il faut dire que nous sommes ici une petite ville de 4 ou 5 000 habitants, pas plus, et qui s'était toujours tenue en dehors de la circulation. Nous sommes bien sur la ligne des grands rapides internationaux, mais ils passent sans s'arrêter. Nous avions avant tout le souci de nos aises, avec le goût de la tranquillité, peu de besoins, et peut-être bien que, de tous les plaisirs de la vie, boire notre petit vin entre amis était encore celui qu'on prisait le plus. Alors on l'avait sous la main, nous vignerons, gens de petit métier, gens de bureau, gens de boutique, mis sous un beau soleil, devant une belle eau, 4 ou 5 000 parmi nos vignes. On s'était toujours tenu dans un juste milieu, c'est-à-dire qu'on n'était ni trop riche ni trop pauvre. On se contentait de peu, pourvu que les enfants fussent en bonne santé, comme c'était généralement le cas, la femme d'humeur pas trop difficile, comme c'était aussi généralement le cas. Faisant à l'occasion un peu de politique, juste ce qu'il en fallait. Ayant d'ailleurs nos journaux, leurs nouvelles, le train-train de la vie de chaque jour autour de nous, de sorte que les choses qu'on voyait nous suffisaient. On n'avait jamais cherché à savoir ce qui se cachait derrière elles. Elles pendaient autour de nous, toutes proches de nous, et de tous les côtés, étant de l'air, étant de l'eau, étant de la terre et de la roche, comme 4 murs qu'on ne peut pas percer, mais on n'en avait pas envie. On allait avec nos yeux contre elles, sans irritation de les trouver là, au contraire, parce qu'elles étaient, à ce qu'on disait, parmi les plus belles du monde, si bien qu'on se rattrapait sur la qualité. La cause de tout le changement a été une proposition qu'une société anonyme avait adressée à la municipalité, lui offrant de prendre en location une salle qu'on appelait la salle communale. Cette salle communale, comme le nom l'indique, avait été construite par la commune, quelques années auparavant, pour servir de centre de réunion aux diverses sociétés de la ville. Or, il s'était trouvé qu'elle n'avait, pour ainsi dire, jamais été utilisée. On se plaignait qu'elle fût mal chauffée, mal éclairée, mal aérée, mal située, trop grande d'ailleurs, peu commode. Et c'est ainsi qu'après 1 ou 2 essais malheureux, la plupart des manifestations collectives, bals, concerts, fêtes de tout genre, avaient recommencé à avoir lieu aux 3 chasseurs, où on avait en outre le boire et le manger sur place, ce qui est à considérer. La société en question ne devait pas ignorer ces circonstances. Il était naturel qu'elle cherchât à en tirer parti. Son offre, d'autre part, était tout à fait raisonnable. Les 6 000 francs de loyer annuel qu'elle offrait représentaient un revenu de 6%. Après un premier examen, la lettre fut donc lue en séance. De quelque manière qu'on la retourna, la proposition parut avantageuse. Il y avait à tenir compte, en effet, de la situation des finances municipales, qui était loin d'être brillante. Il y avait aussi certaines questions d'amour-propre, qui n'étaient pas sans jouer leur petit rôle dans le débat. L'opposition n'en fut pas moins très forte. Elle dura 5 longues séances. Plusieurs de ces messieurs du conseil se méfiaient, parce qu'ils se méfiaient de toute nouveauté, de cette nouveauté-là, plus particulièrement. Ils firent toutes sortes d'objections. Et, quand on fut enfin forcé de passer au vote, car on était en septembre et la salle devait ouvrir avec la saison d'hiver,
c'est-à-dire au milieu d'octobre. Les oui l'emportèrent bien, mais ils ne l'emportèrent que d'une voix. Encore ce résultat ne fut-il obtenu qu'après que toute espèce de restrictions eurent été introduites dans le contrat, dont l'une spécifiait qu'il ne serait valable qu'à titre d'essai pour une année, tandis qu'une autre clause donnait à la commune, dans certains cas prévus, un droit de résiliation immédiate. On fit un achat de toile blanche, on fixa au-dessus des fenêtres des stores noirs. La salle n'avait de fenêtre que d'un côté. Le jour n'entrait que d'un côté et pauvrement. Même le peu de fenêtres qu'il y avait furent bouchées. Même ce pauvre jour fut ôté. On n'eut alors qu'à dérouler les stores. Et là, dans le fond de la nuit, au milieu de ce petit quartier avec ses ruelles sans air, presque toujours désertes, en ce mois d'octobre, parmi nos vignes, dans le bas du mont qui est comme un mur d'un côté, il y a le mur des montagnes de l'autre, sous le ciel bas, dans le silence, là on a commencé par un morceau de piano. Puis une fenêtre a été ouverte sur le monde. Une grande lumière carrée s'est allumée devant vous, qui vous teniez alignés sur les mauvais bancs de sapin, passés au brou de noix, avec des numéros en carton. Et des hommes à chapeau de feutre, un mouchoir autour du cou, vous sont arrivés dessus, au galop de leurs chevaux. 4. Comme le printemps venait, Madame Joël avait été toute heureuse de voir que son fils Louis semblait s'être fait sans trop de peine à l'idée de ce mariage, et ainsi, se disait-elle, il serait casé. Madame Joël s'était dit qu'une femme était encore le vrai moyen, sinon le seul, de le ramener à la bonne vie, et, s'étant donc mise à lui en chercher une, il y avait eu cette Suzanne Bonjour, dont elle avait jugé qu'elle ferait parfaitement l'affaire, si seulement elle était consentante. Mais elle l'avait été très vite, à supposer qu'elle ne le fût pas depuis longtemps. Car la boutique de blanchisseuse, où elle travaillait, était deux ou trois maisons seulement plus loin que celle que Madame Joël et son fils habitaient. Ainsi, chaque jour, Suzanne le voyait passer plusieurs fois de l'autre côté du vitrage, quand elle, à une table recouverte de plusieurs épaisseurs d'étoffe, pesait des deux mains sur la plaque, faisant s'élever une vapeur. Il passait de nouveau. Il avait cet air triste et absent, dont le cœur des femmes s'émeut volontiers. Il n'avait même jamais regardé du côté de Suzanne, parce qu'il marchait la tête basse, mais raison de plus. Si bien que Madame Joël n'avait eu qu'à entrer un jour dans la boutique, n'ayant que ce fils au sujet duquel elle se tourmentait grandement depuis qu'il était de retour, et déjà avant son départ, puis pendant ses 5 ans d'absence, car il avait été absent pendant plus de 5 ans, ayant couru les terres et les mers, ayant fait, à ce qu'il racontait, plusieurs fois le tour du monde. Son humeur l'empêchait de tenir en place nulle part. À 16 ans, Madame Joël l'avait fait entrer comme petit commis, chez un notaire. Il n'y était pas resté 6 mois. Comme elle avait des relations, elle lui avait trouvé ensuite une place dans les bateaux à vapeur, se disant qu'une occupation de ce genre lui conviendrait peut-être davantage. Et, en effet, il prétendait ne pas pouvoir s'accommoder d'une vie trop sédentaire. Mais il n'avait pas tenu longtemps non plus dans les bateaux à vapeur. On ne quittait un lieu que pour y revenir tôt après. On tournait en rond. Les déplacements de ces bateaux n'étaient même plus des déplacements, puisqu'ils se répétaient dans un ordre toujours le même. Et Louis avait recommencé à avoir son air malheureux, jusqu'à ce qu'un jour, le dernier du mois, qui est jour de paix, il n'était pas rentré à la maison. Une carte, 6 mois après, était venue d'Amérique. Plusieurs mois encore s'étaient passés quand une carte était venue de Chine. Enfin, une dernière, vieille elle-même de 5 ou 6 semaines, était datée du Cap. Puis, plus rien. Plus rien de lui. Plus aucune nouvelle de lui pendant encore 2 ou 3 ans. Comme s'il avait été tout à fait ôté de dessus la terre. On avait fini par l'oublier. Madame Joël elle-même le croyait mort. Il revint, un soir qu'il y avait des vagues. Madame Joël ne l'avait pas entendu heurter. Elle ne l'avait pas non plus entendu monter l'escalier, comme c'était souvent le cas, quand le vent de Genève soufflait. elle a vu qu'il avait un sac de toile sur l'épaule. C'était après qu'elle avait eu ouvert, enfin, et d'abord, elle ne l'avait pas reconnu tellement il était changé, tellement amaigri, maigre terriblement, le teint jaune, les cheveux trop longs, une barbe de 4 ou 5 jours, une casquette dont la visière ne tenait plus. Et on était au mois de novembre. Pourtant, il n'avait sur le corps qu'une pauvre mince veste, aux boutons arrachés, un pantalon tout effrangé du bas. Il se tenait sur le palier, son sac sur l'épaule. Alors, elle, tout à coup, « Mon Dieu !» Puis, « Est-ce toi ? Est-ce bien toi ?» Alors, il était entré. Et des questions et des questions encore, pendant qu'elle courait en tous sens, dans la cuisine, rallumant le feu, apportant du pain, du fromage. Puis, pendant qu'il mangeait, de nouveau toutes ces questions auxquelles il avait répondu d'abord. Après quoi, tout à coup, le silence était revenu. Le silence était réemparé de lui. C'était comme si en lui-même tout s'était tu, bien qu'à présent il revînt du monde. Il avait été à travers le monde. Il rapportait le monde. Mais déjà plus rien, ce soir-là, ni les jours d'ensuite, ni plus jamais, ayant de nouveau son air de ne pas voir et de ne pas entendre, son air de ne pas être là. Et, de nouveau, toute espèce de métier avait été essayé par lui, dans les bateaux à vapeur, ouvrier caviste, manœuvre à la gravière, apprenti boulanger, aucun n'avait duré longtemps. C'était sa mère qui devait l'entretenir, bien qu'elle gagnât elle-même péniblement sa vie à faire des ménages. « Oh ! Disait-elle, mon pauvre garçon !» Et elle le regardait. « Mon pauvre garçon !» Elle s'interrompait encore. « Qu'est-ce que tu as dans la tête ?» Mais peut-être bien ne le savait-il pas lui-même. Alors il n'était resté à Madame Joël qu'à recommencer ses démarches. Elles avaient échoué, les unes après les autres. Cette Suzanne était une grande belle fille brune, robuste, bonne travailleuse. Elle avait 22 ans. Elle était orpheline de père et de mère. Maintenant, elle passait presque toutes ses soirées avec nous. Tout l'hiver, il y avait eu des représentations à la salle communale. Elle venait, il s'était laissé faire. Suzanne venait, il ne s'en allait pas. Madame Joël, vers 9 heures, leur faisait une tasse de thé. Elle pensait, pas moyen de mieux tomber. Elle saura le tenir, elle a de la tête, et un métier propre, un joli métier. Et puis, Madame Emery, sa patronne, lui veut du bien. Ce sera un établissement tout trouvé pour eux, une fois ou l'autre. Ils avaient pris, peu à peu, semblait-il, l'habitude d'être ensemble, lui et elle, et Madame Joël, les trois, à la cuisine, bien au chaud sous la lampe. Puis il n'y a plus eu besoin de lampe. Les bateaux à vapeur avaient recommencé leur service. L'un d'eux quittait justement le débarcadère, remplissant toute la partie supérieure de la fenêtre avec sa pointe, puis avec sa roue et sa cheminée, puis avec sa partie d'arrière. On entendait siffler le bateau à vapeur. Ce soir-là, ils étaient sortis. C'était le mois de mai. C'était un peu après le coucher du soleil. Ils avaient d'abord été le long du quai sous les platanes qui commençaient seulement à pousser leurs premières feuilles, tellement ils avaient été taillés ras, selon la coutume, l'automne précédent. Ils marchaient à côté d'elle, les mains dans les poches, tenant la tête baissée sous sa casquette, elle-même tirée très bas. Des hommes étaient assis sur le mur, de l'autre côté duquel était le petit port carré, avec son eau tellement lisse que c'était comme si on avait découpé un morceau de ciel avec des ciseaux et on l'avait collé dessus. Il y avait en arrière des jetées, et en avant du lac bleu sombre, légèrement agité cette fois-là, ce carré rose, où étaient des nuages blancs, les coques noires de 2 ou 3 bateaux à rames. Les hommes, assis sur le mur, fumaient la pipe, les mains entre leurs genoux, sans faire attention à Louis ni à Suzanne. Il est vrai que les hommes leur tournaient le dos, et eux ne faisaient aucun bruit. Suzanne n'avait pas parlé d'abord, lui non plus. Tout à coup, ils ont vu à côté d'eux que le lac avait changé de couleur, et en même temps, ils avaient atteint le bout du quai, de sorte qu'ils se sont trouvés marcher dans le sable. C'était la bise qui soufflait. Alors il y a eu un lac noir, sur lequel on voyait fuir vers le large les 1000 petites rides des coudères,
comme si on y avait laissé traîner le bas d'un châle à longues franges. Quand la bise souffle, les vagues sont pour l'autre rive. Ici, c'est seulement le tout premier commencement des vagues. C'est seulement comme si une main passait sur les cordes d'un instrument. Et, à cette place, tout à coup, n'ayant pas parlé jusqu'alors, à cette place, écoutez, monsieur Louis. Puis, je voulais vous dire, peut-être que ça vous ennuie. Je ne sais pas. Peut-être que ces promenades, il ne la laissa pas achever. Pourquoi ? Il n'avait rien dit de plus. Il n'y avait eu que ce mot, mais ce mot avait suffi. Et heureuse, tellement heureuse ! Ils allaient dans le bas d'un talus, couvert de ronces, en haut duquel il y avait une rangée de peupliers. On a entendu les peupliers rire, et en même temps ils faisaient un bruit d'eau, et en même temps ils faisaient un bruit de poils à frire. Le rivage a détaché une longue pointe de sable dont le dos arrondi luisait encore faiblement sur un de ses côtés. Ensuite venait une sorte d'anse, à cause d'une seconde pointe qui s'avançait plus loin dans l'eau. Là, une maison de pêcheurs se voyait, en arrière des perches où on pend les filets pour les faire sécher. Justement, Lugrin, le pêcheur, était encore sur l'eau avec son aide. Il venait de jeter une dernière fois son filet. Penchés l'un vers la pointe, l'autre vers le bout carré du bateau, les deux hommes se tournaient le dos, amenant à eux la corde qu'ils laissaient tomber à leurs pieds, poignée après poignée, comme quand on cueille quelque chose. Tout à coup, on a vu qu'ils avaient avec eux un petit chien, parce que le petit chien s'est mis à sauter en aboyant plus haut que le bordage. C'est que le filet lui-même maintenant apparaissait avec sa prise. Et le petit chien aboyait toujours plus fort, tandis qu'autour de lui, dans le fond du bateau, sautaient aussi des points brillants, dans juste ce qu'il fallait de jour, devant les grandes montagnes, sur lesquelles Lugrin et son aide se sont redressés pour finir. Alors on a vu que Joël avait commencé à regarder, c'est-à-dire qu'il s'était arrêté. Et elle aussi s'était arrêtée, se tenant à côté de lui. Parce que les hommes étaient à présent tout près de la rive et de vous, on a vu que les hommes étaient aussi grands que la montagne. Les deux hommes étaient entre la montagne et vous. Debout, puis ils faisaient encore des gestes dans le bateau, et encore des gestes dans le bateau, puis ils se sont retournés. Alors on a vu que le filet pendait en guirlande autour du bordage. Le petit chien s'était tu. Sur l'eau, dans la barque, devant les montagnes. Tout à fait, pense-t-on, comme une fois, sur le lac de Tibériade, tandis que ceux qui n'étaient pas encore pêcheurs d'hommes pêchaient, mais alors l'autre était venu. Pendant que Joël regardait, et elle regardait aussi, tout à coup Lugrin a crié « Hé, vous !» Il ne semblait pas que Joël eût entendu, car Lugrin a recommencé « Hé, là-bas ! Hé, vous deux ! Est-ce que vous ne venez pas nous aider ?» « Ouvrier de la dernière heure ?» Il s'est mis à rire, tout en allumant sa pipe. Le petit chien tenait ses pattes sur le bord du bateau. Il avait la tête blanche et noire.